Bonjour les toqués du Tic Tac, émission exceptionnelle pour phénomène exceptionnel, pour un buzz international et mondial qui nécessite la première émission talk show de Franck Sensé. Et merci à vous d'être là, Chloé Redler que vous connaissez, la rédactrice en chef évidemment de Baywatch, Karine Leuillet, la rédactrice en chef horlogerie de l'hebdomadaire L'Express, le non moins célèbre Edson Panier, percé. C'est ta femme qui me l'a dit. Du magazine hebdomadaire Le Point, et Paul Miquel, l'incontournable, le sémillant, l'élégant Paul Miquel, rédacteur en chef du non moins élégant magazine, très belle maquette, The Good Life, dont vous avez évidemment le dernier exemplaire sur la table avec une magnifique Monaco dessus. Merci à vous d'être là. On parle de la Swatch, de la collab AP Swatch, phénomène incroyable. Elles sont toutes sur la table. On envoie le clip et après on commence la discussion. Mais que s'est-il passé ? Incroyable, vous avez vu toutes les montres parce qu'elles sont toutes sur le plateau. On a les 8. Merci à Chloé qui a gravi des montagnes incroyables pour les réunir. Et maintenant, moi, je vous le dis à vous, est-ce une démocratisation de la haute horlogerie ou simplement une opération de communication qui a été très contrôlée et bien menée ? Qui prend la parole en premier ? Honneur aux femmes.
Je t'en prie, Karine. Bon.
Je pense que, en fait, ce sont les deux. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette opération, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je crois qu'aujourd'hui, le dessein est d'aller au-delà d'un simple coup et d'intéresser à l'horlogerie un public qui ne connaissait pas, et je pense notamment aux jeunes, surtout aux jeunes générations, qui ne savent même plus lire l'heure. Donc, non seulement elles vont apprendre à lire l'heure, mais à remonter une montre, puisque c'est un remontage mécanique et non pas automatique. Et puis, je ne sais pas, quand vous regardez ces montres, je trouve qu'il y a une grande partie qui s'adresse aussi aux femmes, et surtout dans la façon de porter cette montre. Donc, c'est une nouvelle façon de porter le temps. Donc, voilà. Et surtout, il y a tout le côté... Le clin d'œil à une marque de haute horlogerie, mais c'est un clin d'œil, c'est fait par Swatch, avec l'audace, les couleurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas tout dire. Je voulais dire.
C'est une audace aussi pour Audemars Piguet que d'associer son image, Audemars Piguet, manufacture de très haute horlogerie, à Swatch. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que Swatch a sauvé l'horlogerie suisse par l'intermédiaire de M. Hayek, au moment de la crise du quartz. Donc c'est amusant de voir que les passerelles se font de génération en génération. Toi, Chloé,
je rejoins beaucoup Karine sur le sujet et sur l'aspect aussi que moi, si je l'achète, j'achète une Swatch avant tout. J'achète pas forcément l'Audemars Piguet. Donc c'est ça que parce que moi, je suis fan des montres de la marque Swatch et ça démocratise forcément des jeunes qui ne connaissent pas forcément Audemars Piguet. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je crois que d'ailleurs que tu nous as dit qu'il y avait certaines personnes, certains journalistes qui prononçaient mal le mot absolument. Audemars Piguet. Et donc ça, c'est plutôt pas mal pour Audemars Piguet.
Et même des journalistes d'un certain âge. Hein.
Ouais, bien sûr. Oui. Ah oui, non, je parle pas que des jeunes.
Audemars, machin, ils connaissaient même pas la marque.
Voilà, donc...
tu sais, aux 20h ou sur les chaînes d'info. Oui.
Mais ce qui prouve que l'opération Royal Pop a fonctionné. Moi, je pense que ce lancement, faut l'analyser sur les objectifs recherchés par les deux maisons. Quels sont-ils, ces objectifs ? Du côté de Swatch, groupe industriel, objectif, c'est de continuer à soutenir la production, de continuer à innover, parce que l'innovation est quand même au cœur de la marque et de l'entreprise.
Et de ce modèle.
Et de faire parler, et d'augmenter petit à petit aussi son prix moyen de vente. Quoi. Voilà. Donc, Swatch, qui était quand même un petit peu à la peine ces dernières années, juste avant le lancement de la Moonswatch, a besoin de cette activité-là. Quoi. L'autre côté, Audemars Piguet. Tu l'as dit tout à l'heure, des gens disent Audemars, bon, bref. Qu'est-ce que recherche Audemars Piguet là-dedans ? Audemars, à mon avis, et ça a été dit.
Un énorme éclairage sur la notoriété.
A besoin, et c'est d'ailleurs un petit peu paradoxal quand on y pense deux secondes, quoi, a besoin de gagner en notoriété, c'est-à-dire en culture populaire. Autant tout le monde connaît l'Oyster de Rolex, mais Audemars Piguet, il suffit de même de faire un test quand on va dans la rue, vous interrogez 10 personnes, je ne sais pas combien vous disent oui, Audemars Piguet, c'est une marque de montre. Donc, l'objectif principal, à mon avis, il était là aussi, quoi. C'est-à-dire augmenter la notoriété de cette icône qui est la Royal Oak. Preuve en est que en l'espace d'un week-end, je pense que la marque Audemars Piguet a été citée des millions de fois sur les réseaux,
dans le
sur
monde
des
entier.
Chaînes de télé, à la radio, sur des sites. En termes de valorisation médiatique, de rayonnement, c'est exceptionnel.
Ce qui serait intéressant, je demanderai d'ailleurs à Audemars Piguet de voir s'ils ont eu un pic de fréquentation sur leur site internet. Ça, c'est intéressant de le voir après le lancement. Mais tu dis tout le monde connaît l'Oyster de Rolex. Je dis non, tout le monde connaît Rolex. Mais l'Oyster, déjà, c'est notre microcosme, t'en penses quoi ?
Oui, bien sûr, on est...
Moi, cette collaboration et ce lancement m'a réjoui. J'ai beaucoup aimé tous les ressorts de la communication autour de l'annonce, parce qu'il s'est passé un délai finalement assez court entre l'annonce et la sortie du produit, ce qui est intelligent parce que ça permet de susciter un désir immédiat et ça laisse pas retomber le souffle, ce qui aurait pu être le cas si on avait annoncé, comme on annonce parfois des films, des blockbusters qui sortent à Noël. Donc là, on a eu un délai assez court. On a... énormément de spéculations, pas financières, mais sur la créativité tout autour. Quelle formule, quelle couleur, quelle complication, quelle innovation. Et ça a permis d'avoir sur les réseaux sociaux une flopée d'inventivité, grâce notamment aux images générées par IA. Donc, j'ai adoré voir ça. Au-delà de la question de savoir si le produit me plaisait ou pas personnellement, la question qui m'est venue d'abord, en tout cas, ce qui m'est venu en premier, c'est le plaisir d'observer ce que ça suscitait chez les autres, et notamment, comme on l'a dit, chez les personnes qui ne sont pas du milieu. Donc ça m'a fait très plaisir de voir ça et d'entendre des amis qui ne s'intéressent pas à l'horlogerie me parler et être finalement assez excité par cette collaboration.
On ne compte pas le nombre de personnes qui nous ont demandé si on pouvait en avoir une pour eux.
Hein. C'est clair.
Ça, c'est sûr. Ah, les coups de fil, les coups de fil. Dis-moi, j'en veux une pour ma femme. Est-ce que c'est tu peux en avoir une pour mon fils ? Toi qui connais tout, hein ? Vraiment.
Mais pour rebondir sur les propos d'Edson, je trouve qu'il y a quelque chose qui est super intéressant et qui a une valeur de plus en plus importante aujourd'hui et qui ne coûte pas grand-chose dans une campagne de marketing, c'est l'effet de surprise.
Et personne ne s'attendait à Audemars Piguet.
Voilà, et donc on parlait de Breguet,
Je pensais que la prochaine collab, après Omega Blancpain, je pensais vraiment que ça allait être Breguet. Mais là, Audemars Piguet... D'abord, il n'y a pas eu de fuite. Hein.
Pas eu de fuite.
Il y a quand même du développement, des années de développement. Hein. Il n'y a pas de fuite. Et moi, j'ai eu une surprise hein, quand même.
Et puis, surprise en cascade, parce que derrière, ils nous sortent une montre de poche.
Donc, Alors justement, question, pourquoi une montre de poche ?
Qu'en pensez-vous ?
Très bonne question. Oui. Mais quelle transition ! Oui. Mais tu devrais faire de la télé, Edson.
Merci. Il est né pour ça.
Il est né pour ça. Hein ?
Pas de bizutage, s'il vous plaît. écoute, en tout cas, la légitimité, parce qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des questionnements sur la légitimité du produit. Légitime, il l'est chez Swatch parce que la Swatch Pop, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il l'est aussi chez Audemars Piguet, puisque Audemars a fait des montres de poche, si je ne me trompe pas, la référence 5691. En 84, qui était déjà très jolie, qui ressemblait vraiment à ça. Et donc, la légitimité, oui. Elle est là, même si, évidemment, Audemars n'est pas connu pour ça. Ça reste un petit clin d'œil au passé que je trouve intéressant.
Et puis, Audemars Piguet, comme Swatch, ce sont des casseurs de codes.
Bien sûr.
Ouais.
Quand la Royal Oak sort, elle époustoufle tout le monde. C'est la montre en acier la plus chère jamais vendue.
Idem pour la Swatch en 83.
Et quand le Swatch sort, ça épouse tout le monde. Quand la System 51 sort, c'est une révolution aussi. Donc on est vraiment dans des deux marques qui ont l'habitude de bousculer les codes.
Oui, et puis la Royal Oak, bon, non seulement elle n'a pas besoin d'être dépoussiérée, mais elle est quand même capable de s'aventurer sur des terrains, parce qu'avec toutes les déclinaisons offshore, on l'a vu aller très très loin et déjà susciter beaucoup de débats sur certains produits. Donc finalement, ça rentre aussi dans quelque part l'ADN de cette montre.
Et la Royal Oak, vas-y.
Il me semble qu'il existe une Royal Oak de poche qui a été faite, je ne sais plus en quelle année. Ouais, ouais. Et donc, ça existait déjà, mais bon, ça c'est... Mais je ne pense pas que ça soit la raison principale non plus pour laquelle une montre de poche a été faite. Je pense que c'est aussi par rapport aux possesseurs de Royal Oak.
Aux collectionneurs de Marpiguet.
Absolument, pour ne peut-être pas les froisser, pour ne pas tout mélanger, parce qu'on c'est est dans des mondes...
C'est le commentaire de François-Xavier Oversteck, un de nos confrères, qui disait « Je suis content qu'ils aient pas fait une montre bracelet parce que ça risque pas de froisser les collectionneurs d'Audemars Piguet. »
Après, on ne sait pas si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, comme demain. C'est éclipsable, ça existe déjà, ça fleurit déjà sur les réseaux sociaux.
De toute façon, des bracelets, il va y en avoir.
Mais il y en a déjà.
Il y en a déjà.
Des bracelets 3D, donc ça c'est clair, il va y avoir plein de fabricants de bracelets.
On promet gloire et fortune à tous ceux qui se lancent là-dedans. Et d'ailleurs, dans toute cette période de communication, au-delà des quelques images polémiques qu'on a pu voir, moi j'ai vu beaucoup de choses assez drôles. Plein de mèmes autour de ce produit, des petits commentaires acerbes, mais qui finalement sont assez marrants, qui disaient Royal Flop en découvrant qu'il s'agissait d'une montre.
D'une Royal Pop.
Qu'est-ce que j'avais vu qui m'a fait rire? Ah oui, quelqu'un qui avait dit tu mets un logo McDo dessus et puis tu la vends dans un Happy Meal. Enfin, finalement, tout ça.
c'était rigolo. Ça fait le buzz,
ça fait parler. On peut
mais
être...
tant que c'est avec humour et pas méchant, moi ça me gêne
mais
pas.
Mais c'est avec humour et c'est.
J'ai envie de dire que ça faisait partie, je pense, des. Effets recherchés également.
Ils s'approprient à une vitesse
incroyable. Et c'est pour ça que je trouve aussi... Alors, OK, montre de poche. Pourquoi montre de poche? J'en sais rien. Mais en revanche, on revient sur cet effet de surprise et de disruption complète, quoi. On s'y attendait pas encore. Montre de poche, OK, fine. Et puis surtout, moi, ce que je trouve, c'est que le nom dit tout de cette montre. Royal Pop, donc en fait, c'est l'association, évidemment, Royal Oak et Swatch Pop. Mais d'un autre côté, quoi, le nom de cette montre dit ce qu'elle veut de son avenir, c'est-à-dire devenir une icône de la pop culture, en fait. Voilà, c'est-à-dire sortir du monde de l'horlogerie, quelque part, même si... ses codes sont horlogers,
on reviendra sur les
son
codes,
contenu est horloger également, mais c'est sortir des manufactures pour en faire un objet de pop culture,
de pop culture
et qui devienne une icône qui va bien au-delà du monde de l'horlogerie.
Mais c'est déjà le cas.
Bah, oui. Parce que tout le monde
moi, ce qui m'a plu et ce qui me foutait la trouille quand j'ai eu les premiers trucs, je suis content qu'il y ait marqué nulle part sur la boîte ou sur la montre Royal Oak. Alors que sur la Moonswatch, moi je trouve que ce qu'il n'y aurait pas eu lieu d'être, c'est d'avoir marqué le mot Speedmaster. C'est, tu vois, moi c'était le pas trop loin. Moonswatch, c'était génial. Moonswatch, c'était vraiment le clin d'œil. Mettre Speedmaster sur le bracelet, ça a pu heurter certains collectionneurs de Speedmaster.
Enfin là, on va quand même assez loin. Il y a le logo d'AP quand même.
Mais le logo, ça me gêne pas. Mais il y a pas, c'est pas une Royal Oak.
Mais l'équilibre tient.
Mais ça, est-ce que c'est une Speedmaster? C'est marqué dessus comme le port salut. Est-ce que c'est une Speedmaster? Regarde, Speedmaster.
Oui, c'est marqué sur le bracelet.
Ouais. Mais moi, j'aime bien que le Royal Oak ne soit pas marqué, parce que ça conserve quand même la légitimité et ça conserve quand même la bulle autour de la Royal Oak. C'est pas une Royal Oak. En revanche, c'est une Swatch.
Après, il y a un autre effet recherché aussi qui rejoint aussi ton côté pop, c'est-à-dire que on a envie de voir cette. Enfin, je pense qu'Audemars Piguet et Swatch ont envie de voir cet objet partout en fait, quoi.
Oui, bah,
chez
sûr.
Les jeunes, chez les moins jeunes, etc. Et c'est ça que je trouve plutôt très intelligent.
Multigénérationnel.
On a envie pour ça qu'on peut la porter. On peut la porter autour du cou, on peut la porter sur un sac, on peut la porter sur une ceinture. Enfin, voilà, elle est, on peut la multi-accessoiriser. Et ça c'est chouette.
C'est un accessoire voilà. De mode, littéralement. Et ça, c'est assez pertinent aussi avec des choses qu'on a pu voir dans cette période. Il y a eu le phénomène de la boubou, dont vous avez certainement tous entendu parler. J'ai mis très longtemps à réussir à le prononcer. ces espèces de bestioles en peluche monstrueuses, littéralement, puisque ce sont des petits monstres qui s'accrochent au sac et se multiplient. Assez moche. Alors là, pour le coup, l'effet est complètement tombé. Mais par contre, moi, j'ai pu observer, à mon grand étonnement, des files d'attente à n'en plus finir devant les boutiques qui vendaient ce machin, des copies d'imitations partout, dans toutes sortes de magasins. Et donc, c'est ce truc d'accumulation, d'accessoires. Et d'accumulation, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, finalement, on peut aussi imaginer que une personne va avoir envie d'en acheter plusieurs
oui,
et de les porter
sûr.
Tout ensemble, de les accrocher à un...
Déjà, ça a été un tour de force de les réunir sur, sur le plateau.
Ouais.
Je peux te dire merci Swatch, parce que c'est Swatch qui nous les a fournis. Parce que vraiment, là... ça a été de grandes négociations.
Mais tu vois, sur le phénomène de la boubou, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y a une dizaine d'années auparavant, sur un phénomène qui aurait pu être identique, le phénomène aurait duré plus longtemps. Là, il a été exponentiel, et ensuite,
il s'est affaissé
totalement.
Je devais être en train de jouer au golf quand le phénomène est sorti.
Ça a duré un an, je pense,
je pensais
4
heures, parce que moi, je suis passé à travers du boubou. Tu l'as vu, toi, le boubou?
Bah, avec les enfants, oui, mais... Moi,
j'ai vu des grands adultes.
Ah non, mais j'ai pas des enfants.
Ils font des reveals aussi, je crois, des trucs.
Ah oui, on va lui offrir un labou.
Puis à la Fashion Week, on voyait que ça, des labous. Oui. Hein,
toi, t'es con. Hein. D'accord, c'est le premier.
Il faut lui en offrir plusieurs.
Notez bien, 1-0.
Un boubou Franck Sensé, nouvelle collaboration.
Oui, bien sûr, mais allez-y, continuez. On parle de la Swatch, là.
Non,
mais
justement, ça rajeunit la façon de porter le
corps. Ça la rajeunit, et commercialement, je trouve que c'est une prise de risque qui est probablement mesurée, mais qui est assez courageuse, parce que...
c'est pas étonnant dans l'esprit d'Audemars Piguet, qui a toujours été là où on ne l'attendait pas.
Oui, bien sûr.
Ils reviennent au salon Watch & Wonder, et ils ne présentent pas une seule nouveauté. Eux.
En revanche, le stand Audemars Piguet à Watch & Wonder était juste sublimissime. Et
avec une exposition dans le milieu horloger et la renaissance des établisseurs.
Et intelligent, c'est-à-dire, c'était vraiment un stand dédié à la culture horlogère et pas simplement à celle d'Audemars Piguet, c'était beaucoup plus vaste. Et j'ai trouvé cette démarche extrêmement enrichissante. Et quelque part, en fait, la Royal Pop, elle va presque dans le même sens.
Elle s'ouvrait à autre
chose.
Je
suis 100% d'accord.
Ouais. Ouais.
De toute façon, quand tu parles de Monsieur Hayek, et quand tu parles d'Hilaria Resta, c'est pas de la pro de 6 semaines non plus, en matière de lancement de produits et en matière d'intelligence produit. Donc tout ça n'est pas le fait du hasard. Maintenant, parlons plus du produit. Est-ce qu'il est intéressant symboliquement ou c'est le côté horloger qui est intéressant? Remontage manuel, une nouvelle quand même petite complique qui est à l'arrière de la savonnette avec un indicateur de réserve de marche très novateur, avec des hublots qui sont les petits hublots avec le ressort de barillet qui se compresse.
Je dirais plutôt guichet, non ?
Non, des petits hublots.
Des petits hublots, d'accord.
Okay.
Ils sont ronds, donc c'est des petits hublots.
D'accord.
C'est le hublot qui te gêne ?
Oui, un peu, ouais.
On avait dit qu'on parlait que Swatch. Hein.
Ben oui.
Des guichets ronds.
Oui.
Et puis il va mettre deux montres comme ça, il va dire regardez, j'ai une paire de lunettes. Non mais t'en as déjà une. Alors et ça vraiment c'est une nouvelle façon d'indiquer la réserve de marche. Je trouve ça c'est novateur. Donc c'est du côté horlogiquement parlant, il y a une innovation horlogère sur une Swatch. Et on peut dire le prix. Puisque
on est sur les savonnettes, les deux modèles savonnettes à 400 € et sur les six autres à 385 €.
Donc t'es quand même... Puis t'as de la biocéramique qui est quand même... C'est pas un banal plastique, c'est de la biocéramique. Tu regardes les vis sur les lunettes, elles sont parfaitement alignées comme sur une Audemars Piguet Royal Oak. On sait que ça, c'est pas évident à faire. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait ça.
On a le cadran tapisserie aussi.
Cadran tapisserie. Elle est plus soit ou elle est plus Aude Marpillier? Je pose la question.
J'aurais envie de dire c'est 50-50.
Ouais, elle est les deux.
C'est-à-dire que c'est une montre qui a un fort contenu horloger, quand même. Et tu as tout listé. 90 heures de réserve de marche, quand même. Quoi. C'est beaucoup. Qui est réalisé de manière industrielle. Alors, ce qui est très marrant, c'est que sur ce produit, tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire le calibre, enfin, de face, hein, évidemment, puisque le fond est transparent, c'est Swatch. Et tout ce qui se voit, c'est tout l'habillage, c'est Audemars. Marrant quand même. Quoi. C'est comme s'il y avait eu une vraie répartition des tâches.
Swatch. Les couleurs, ouais, c'est très Swatch. Ah, oui.
Je dirais qu'elle est plus Swatch, mais qu'elle respecte l'héritage, les codes d'AP. Elle est très respectueuse, en fait.
Mais c'est ça, l'exploit.
De l'héritage
l'exploit, horloger. C'est d'avoir réussi à faire une Swatch qui, en aucun cas, ne dégrade l'image Audemars Piguet. Et les codes Audemars Piguet, avec la tapisserie, avec la lunette de la Royal Oak. Je dis, l'alignement des vis, moi, ça m'a subjugué.
Oui, mais le contenu horloger, le fait, justement...
Il est là.
C'est aussi le résultat d'une vraie collaboration et un message fort de Swatch envoyé à Audemars. Dit, OK, ben, on arrive aussi à faire ça. C'est-à-dire apporter de la complication horlogère qui, d'habitude, est plutôt le domaine d'expertise d'Audemars Piguet.
Maintenant, je parle à l'homme de la mode et de l'horlogerie, évidemment. On ne va pas oublier que tu n'es pas que le roi de la mode. Et puis, au rédacteur en chef, quand même, d'un des magazines Lifestyle les plus, si ce n'est le plus, lu en France et dans toutes les gares, les coiffeurs, les médecins, etc., quand même. Hein, The Good Life. Ouais. Hein. Je vous dis à tous les deux, parce que là, j'ai deux femmes qui sont très horlogères. Est-ce que c'est un signe que le luxe horloger ne peut plus se passer de la culture populaire et de le phénomène de mode et de la captation dans les réseaux sociaux?
Vas-y.
Dès que c'est une question un peu high level, Paul dit toujours à l'autre, par politesse, de commencer. Un partout.
Bon, déjà, il faut quand même se dire, parce que là, on est tous surpris et
séduits.
Et séduits. Mais l'horlogerie a 20 ans de retard sur le mastige, qui est donc l'union du prestige, donc des marques de luxe et des marques mass market, puisque ça a démarré dans les années 2000 avec Karl Lagerfeld qui a commencé à faire des collections avec H&M, et puis voilà, et ça a été très très repris par d'autres. Lanvin en a fait, Sonia Rykiel en a fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la mode, que Swatch finalement amène à l'horlogerie, qui peut, pour des personnes qui ne sont pas des initiés, avoir encore ce côté un petit peu poussiéreux. Donc là, bah, évidemment, on dépoussière complètement. Je pense que aussi, quand on est solide sur ses appuis comme AP, on n'a pas peur d'être challengé par quelque chose d'un peu hors du cadre. Et comme Swatch est quand même pro dans la maîtrise du hors cadre, et comme elle l'a prouvé aussi avec la Moonswatch, hein, qui pour moi est une vraie réussite. C'est une montre que j'aime beaucoup et que je porte tout le temps.
Mais la Moonswatch a été un coup de tonnerre dans le monde horloger. Qui, à part Swatch, pouvait se permettre ça?
C'est déjà un signe de confiance.
Oui, oui, mais c'était dans leur groupe.
Bien sûr.
Ça veut dire que c'est le même boss qui a dit au boss d'Omega et au boss de Swatch, je veux faire une Moonswatch. Quand t'es le patron... Eh ben, les autres, ils disent oui, même si ça ne leur plaît pas. Mais là, c'est une autre marque extérieure au groupe qui est venue. C'est ça qui est dingo, quoi.
Oui, ça, c'est incroyable. Là où je rejoins Edson sur le petit retard de l'industrie horlogère dans certains secteurs, celui de la mode. En fait, il y a un choc de temporalité. La mode est une industrie du temps court et l'horlogerie est une industrie du temps très long. Et c'est vrai que cette collaboration totalement inattendue l'aurait été moins avec des marques de mode. Et tu vois, on peut prendre par exemple J.W. Anderson, le designer chez Dior, qui fait des collections pour Uniqlo, qui a sa propre marque. En fait, tout cela est déjà
très installé
dans la culture du style. de la mode et en fait ça choque personne d'une certaine manière et au contraire
une Swatch Lacoste ça aurait été légitime une Swatch avec Lacoste
ça crée,
par exemple
ça, non mais ça crée de la désirabilité oui, ça crée de la désirabilité
c'est moins drôle, ouais,
c'est
moins drôle.
C'est oui, ça
fait. Si Lacoste fait des montres.
Oui,
c'est sympa au demeurant, donc voilà.
Oui, mais avec un bracelet en crocodile.
Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que la Moonswatch, on a été surpris au moment de son lancement, parce que c'était une collaboration intra-groupe, en fait. Voilà, deux marques du même groupe, alors que d'habitude, une collaboration, c'est une marque dans un secteur. Je dis n'importe quoi, une marque automobile qui va s'associer avec une marque horlogère ou une marque de vêtements, etc. Là, déjà, il y avait une première surprise, c'est deux marques du même groupe.
Et ensuite, des files d'attente énormes devant les boutiques le jour du lancement. Et ces files d'attente énormes, où Swatch avait été un peu dépassé à l'école, à l'époque, pour se juguler un petit peu les gens qui attendaient. Mais là, ça a été quasiment presque une émeute.
Et
alors qu'ils avaient tout prévu pour que ça soit surdimensionné par rapport à avant. On est dans le phénomène un petit peu de masse, et comme dans toi qui aimes bien le foot, où la population t'échappe, et t'as beau mettre 1000 personnes à la sécurité, des policiers partout, etc. C'est des phénomènes qui t'échappent. Et c'est qu'une montre qui n'est même pas éditée en série limitée. Ça veut dire que ces montres-là, tout le monde pourra les avoir dans 3-4 mois n'importe où dans le monde. Et il y a quand même des gens qui les ont achetés uniquement pour les revendre. 1000 balles, 1500 balles. Mais il faut être un gogo pour les acheter à ce prix-là.
Oui, après, on connaît ça dans... Connaît c'est ça. Le phénomène du drop dans le monde
oui,
de,
mais c'est
de
des
la
séries
mode.
Limitées.
Mais alors, drop, c'est vrai que c'est des séries limitées.
C'est des séries limitées.
Souvent.
C'est souvent des séries limitées, mais les files d'attente, l'excitation, on les a effectivement dans les...
Chez Colette avec les baskets,
voilà.
Souviens-toi.
Mais est-ce que c'est pas justement donner l'illusion de la rareté, ce genre de choses, tu vois, aussi
voulu. Je sais pas, moi je pense que c'est un symptôme de l'époque, c'est pas lié à cette collaboration, ouais. On a aussi un phénomène qui frôle l'émeute quand il y a le Black Friday.
Ouais, faut tout avoir tout de suite.
Voilà. Oui, c'est vrai, ils ouvrent à peine les grilles et les mecs
se jettent dessus et se battent pour une télé, donc ça c'est presque... Pour moi, je le mettrais presque de côté. C'est un
mais
symptôme
c'est complètement
de
mettre de côté. Ouais. C'est un épiphénomène qui n'a aucun intérêt.
Et tout à fait. C'est un phénomène important, mais qui n'est pas lié à cette collaboration et qui n'est pas lié non plus à la France, parce que des scènes comme on a pu les voir en France, ça a lieu partout dans le monde.
Oui, mais au Japon, par exemple.
Sauf au Japon, oui.
Alors, sauf au Japon, mais attends.
Au Japon, ils étaient tous alignés, ils attendaient sagement. Et c'est tout juste qu'ils ne buvaient pas le thé dans la file d'attente. Tu vois.
Mais moi, je trouve quand même que de la part des deux marques, il y a une part forte de courage aussi d'avoir. Parce que la prise de risque, elle est
là.
Elle n'était pas minime.
Ah non.
Voilà, il y avait quand même une inconnue à plusieurs niveaux. Et là-dessus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a presque dans ce lancement. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais il y avait presque un petit côté aussi expérimental. C'est-à-dire, voilà, on va voir si on va rééditer le phénomène de la Moonswatch.
Il y avait eu
tellement
aussi
d'inconnus, de surprises qu'en fait, à moins d'être Madame Soleil, c'était compliqué de savoir comment ça allait se passer. Tu vois, quoi.
On en est à la troisième collaboration de ce type, puisqu'il y a aussi eu la réinterprétation de la 50 Atom. Donc c'est vrai que...
Qui a eu beaucoup moins de succès que la Moonwatch.
Qui a été beaucoup plus confidentielle aussi, parce que...
Moonwatch.
Parce que aussi, la montre dont
elle tire
son origine est beaucoup moins connue.
Puis Blancpain est moins connu qu'Omega. Mais cela dit, Audemars Piguet, est-ce que Audemars Piguet c'est connu? On le sait que non, c'est connu dans notre microcosme. Et pourtant, moi, je pense qu'ils ont été surpris par l'explosion du truc. Ils se sont dit, ça va marcher, ça va être sympa, on met des services d'ordre, parce que c'est quand même une biocéramique collab, etc., donc il faut savoir un succès. Mais comme la Blancpain n'a pas eu autant de succès et les mêmes files d'attente devant les boutiques que pour la Omega, la montre qui a posé le pied sur la Lune, quand même, donc tu vois, qui était quand même emblématique, ils se sont dit... Ça va marcher, mais je pense qu'ils ont été surpris par le phénomène. Parce que là, mais c'est dingo, quoi.
Moi, je trouve que ça valide aussi les 15 dernières années exceptionnelles du travail d'Audemars Piguet.
C'est sûr.
Mais en fait, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que
mais
c'est, là, il y a une forme
fait,
de maturité.
Tout ce qui a été fait par François Henry, et qui a complètement été prolongé par Ilaria dans le même esprit, dans la même veine.
Exactement. C'est, ça valide aussi...
Et d'ailleurs,
aussi,
ils reprennent, je ne sais pas si vous le savez, mais ceux qui regardent mes émissions le savent, puisque Ilaria l'a annoncé en exclusivité dans une de nos émissions. Donc je suppose que vous êtes tous au courant, n'est-ce pas, et vous ferez semblant. Il y a une Marvel qui est en construction et qui est en développement.
Donc qui poursuit le travail de...
Qui poursuit le travail de François-Henri. Alors qu'on ne savait pas si les projets Marvel n'allaient pas être abandonnés. Mm-hmm. Et donc ils sont évidemment continués.
C'est un très très bon exemple. Enfin,
ouais, c'est un déjà, très bon exemple. On est mais déjà Audemars Piguet qui se met avec Marvel. Mm-hmm.
C'était la première qui est sortie.
Mais la différence, c'est que quand Audemars Piguet se met avec Marvel, elle continue à toucher les collectionneurs et les fans d'horlogerie. Pas forcément à s'aventurer vers le grand public, c'est plus... Effectivement, c'est plus,
high level price, hein.
Voilà, c'est plus rajouter une sorte de... rajouter à la palette, en fait. Alors que là, on a vraiment offrir, en quelque sorte, une icône entre les mains de tout un chacun.
Ouais.
Enfin, c'est...
Est-ce que vous avez une idée dans la population française de, à partir de combien, pour la majorité des personnes qui, pas qui nous écoutent, mais qui sont dans la population et qui ne s'intéressent pas forcément à l'horlogerie, quel est le prix à partir duquel une montre est chère? Parce que j'ai la réponse.
Je dirais, je me mouille, 300.
Moi, je dirais 600.
Ouais, je me rapprocherais peut-être.
J'irai en dessous. Mais bon, après, je ne sais
150
pas.
150 euros.
Oui.
Ah bah, tu vois.
Le problème, parce c'est que la majorité des montres qui sont achetées en France, bah, c'est un objet que tu mets au poignet qui donne l'heure.
Oui.
Et la majorité des montres sont achetées à Quartz, sur des marchés, Bijoux Leclerc, au tabac. C'est, tu vois, et c'est des montres qui coûtent moins de 150 euros. Quand on investit 200 euros dans une montre, pour beaucoup de gens, il ne faut pas l'oublier. On est complètement décalé. Le nombre de fois que vous m'envoyez des commentaires en disant... D'ailleurs, j'espère que vous aurez beaucoup de commentaires sur cette émission. Vous m'envoyez des commentaires en disant « Mais sur quelle planète tu vis ? Tu as une montre à 15 000 et tu dis oh, « Quel bon rapport qualité prix, vraiment très bien placé, etc. » Mais dis « Mais t'es dingo ou quoi ?»
Oh non, mais je crois qu'on est tous dingos dans leur lot, en fait, là-dessus. Il y a un gros décalage... de réalité, en fait.
Donc, combien j'ai entendu de journalistes à qui on présentait des montres à 60 000 euros ?
Les prix
qu'on entend à longueur de journée.
Mais combien de journalistes à qui on a présenté des montres à 60 000 euros et qui disaient, mais sans couver rire, pas cher ? Tu l'as pas entendu 1000 fois ?
Oui.
Donc je suis pas le seul. Oui, mais pas cher par rapport à quoi ?
Ah, oui, bien sûr.
Elle est pas chère par rapport à une Richard Mille, oui, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire ?
Après, moi, j'ai quelques amis qui la trouvent chère, celle-ci. Déjà.
Eh ben voilà.
Donc déjà vois, on est à 385, 400.
Remettons les pieds sur terre.
J'ai eu des retours là-dessus, quoi.
Parce que nous, quand on dit cher ou pas cher, on la pense pas par rapport à nos deniers personnels. On se dit, est-ce que elle est chère pour ce qu'elle est donc est-ce qu'elle est chère pour ce qu'elle est en termes de l'image qu'elle véhicule, icône pas icône, est-ce qu'elle a des complications, est-ce qu'elle a tout ça. Donc en fait, tu vois les montres où tu dis à 60 000 euros pas cher, on a pu l'entendre, on a pu le dire parce que on se dit comment...
Ah, pour un tourbillon avec cupé, 60 000 euros, c'est pas cher.
Exactement.
Oui, voilà. Mais bon, c'est... Maintenant, revenons un petit peu sur ce phénomène. Je fais la queue, j'achète la montre, et c'est uniquement pour la racheter. Et sur ce phénomène qu'on peut avoir sur certains modèles de spéculation. Il faudrait quand même tordre le cou à ce truc-là, parce que moi, ça m'horripile.
Ouais,
le mec qui achète une montre, qui la déballe pas, qui la porte pas, qui la laisse dans sa boîte, qui la met au coffre pour la vendre 10 ans après, ce mec-là m'intéresse pas.
Ça empêche quelqu'un qui aime vraiment la montre de pouvoir
d'abord, il soustrait la montre à un vrai collectionneur amateur qui va économiser pendant 15 ans pour s'acheter la montre, alors que lui, il va en avoir 20 dans le coffre. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, il faut pas oublier que sur les, on va dire, les 1000 personnes... Était, ou des 2000, ou des 3000, ou des 10 000 qui étaient devant la boutique, soit des Champs-Élysées, il n'y en a pas 2% qui étaient là parce qu'ils aimaient la montre, qui voulaient la garder et qui voulaient l'acheter pour eux.
Oui, mais y a, là,
c'est quand même dingo.
Je pense même pas 1%.
Tu te rends compte?
Oui, c'est... Après...
Ne serait-ce que parce qu'ils avaient même peur d'être dans la queue, comme il y avait eu avec au phénomène de la Moonswatch, où il y a des mecs qui me disaient bah, « je te passe devant », l'autre disait bah, « quoi, t'es pas content ?» Tu vois, t'avais ce sentiment un peu d'insécurité. Donc là, on est quand même sur des... Tous les gens qui auront cette montre-là, ce sont des gens qui aimeront le concept, qui aimeront les montres. Et on la portera pas par, par apparat. Tu vois ce que je veux dire?
Et on la portera pas demain,
on attendra un peu.
Que ça se calme un petit peu pour aller en boutique.
C'est pas une série limitée, on est bien d'accord.
Puis on la portera de manière décontractée parce que c'est conçu pour ça.
Après, et... on a aussi envie de la faire voir aussi. Je pense que la majorité des jeunes qui vont l'acheter, on a envie. Enfin voilà, c'est un objet qu'on a envie de que les gens nous voient porter aussi.
Et ça en dira beaucoup aussi en fonction de la couleur, en fonction si tu as choisi celle avec la petite seconde, qu'on appelle la savonnette. La savonnette. Parce qu'il y a deux savonnettes sur ce plateau et il y a six
l'épine.
L'épine. Et c'est pas pour prendre les douches.
Non, j'ai compris.
C'est une savonnette. Et d'ailleurs, on va. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur le phénomène ou d'autres choses à dire, vas-y.
Ça ne me vient pas à l'esprit spontanément, mais
j'ai envie de dire que c'était un petit. C'était prévisible quand même. Ces premiers jours,
buzz. Moi, j'avais pas prévisible que ça soit Audemars Piguet.
Les mouvements de foule, la revente. En fait, c'est sur une période très très courte au final. Voilà, c'est. On est aussi dans un monde où il faut tout avoir très vite, où tout va
d'être
très vite.
Peut-être le premier à l'avoir.
Peut-être le premier, blabli, blabla. Ok. Après, ça va se calmer assez rapidement. Donc, c'est presque. J'ai envie de dire aujourd'hui, sur une collab comme ça, c'est presque un passage obligé, hélas.
J'adorerais que des mecs l'aient acheté pour la revendre le double et qu'ils se la gardent autour du cou, puisqu'on peut la mettre autour du cou, et qu'ils n'arrivent pas à la revendre sur les réseaux habituels de vente, même au prix où ils l'ont acheté. Si certains pouvaient perdre un peu d'argent, je trouve que ce serait
une bonne... Ça va se passer, à mon avis, c'est déjà le cas. Ils sont déjà un petit peu désespérés. Donc, tant pis pour eux.
Est-ce que vous ne pensez pas que sur les 8... Merde, je t'ai coupé.
Mais non, je voulais justement rebondir sur cette...
Rebondis, excuse-moi, je reviendrai après avec ma question.
Très intelligent que vient de dire Paul, c'est que...
Ça, je ne peux pas te laisser dire ça.
Non, tu comprends de toute façon.
En tant que modérateur de cette émission... Tu ne peux pas commencer une phrase avec le truc très intelligent que vient de dire.
Non, on a dit en plus qu'on ne faisait pas lèche-botte. Hein.
Non, c'est vrai. Ouais.
Non, je voulais dire que les polémiques, les images dont on parlait, qui nous ont tous déplu, finalement, elles vont passer. Mais là, on vit quand même un moment horloger qui a fait le tour de la planète, qui a touché des personnes qui ne sont pas sensibles à l'horlogerie en particulier. Donc, les images passeront, mais le moment horloger, lui, il restera. On en reparlera. Ça deviendra peut-être un cas d'école de commerce.
Dans des écoles de pub, de marketing, de lancement, etc. Évidemment.
Ça sera aussi discuté dans des écoles d'horlogerie, très certainement. Donc,
un bon sujet sociologique aussi.
Tu vois, exemple très concret, j'imagine que ça vous est arrivé ce week-end-là, si vous étiez avec des amis qui ne sont pas forcément dans l'horlogerie, ou à un moment, forcément entendu parler de ce qui se passait devant les boutiques, et donc, la question c'est, vas-y, explique-moi.
Oui.
Ah ben, voilà, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 10 fois, c'est 10 personnes qui ne connaissaient pas Audemars Piguet.
C'est quoi ce bordel?
Et voilà, à la fin du week-end, ils connaissaient.
Moi, c'est drôle parce que j'étais avec Swatch justement pendant le week-end à la Biennale de Venise, puisqu'ils ont une installation artistique avec leur programme Swatch Peace Art Hotel, où ils sont mécènes depuis 15 ans, je crois, d'artistes dans leur résidence de Shanghai. Et donc, ils installaient là, à Venise, une exposition avec leurs artistes dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain. Et j'ai vraiment eu ce sentiment de deux salles, deux ambiances. Mmh. Et je me suis dit, c'est drôle comme Swatch, finalement, arrive à tenir cette ligne de crête, à être assez juste dans des univers qui sont vraiment, pour le coup, très différents, dans des ambiances qui sont très différentes. Là, on est quand même dans le milieu assez feutré, très spécialiste de l'art contemporain. Et dans le même temps, se passait ce qui était en train de se passer à Paris et dans toutes les capitales du monde. Et j'ai trouvé finalement que ça représentait bien la marque, ce grand écart maîtrisé.
Mais tu vois, c'est très intéressant ce que dit Edson.
Mais ils nous font... C'est Laurel et Hardy. C'est Starsky. Ils nous font un numéro de claquette.
Parce qu'en fait, le monde de l'art... C'est Swatch qui l'a associé au monde de l'horloger, toutes les collabs des années 80, etc., etc. Donc en fait, le roi de la collab, c'est Swatch. Et depuis longtemps. Et donc de continuer à innover et de surprendre dans ce secteur-là, j'ai envie de dire bien joué les gars.
Ouais, et n'oubliez pas ce qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, ID Dada sur le site internet. Absolument. Vous pouvez créer votre montre et tout. Mais j'ai trouvé ça l'idée absolument géniale. Vous avez 3 essais par jour et vous faites votre prompt et vous avez une proposition de montre.
T'es pas donc, objectif, toi t'adores Swatch.
C'est vrai.
C'est pas du tout objectif, t'adores Swatch.
J'ai une collectionneuse de Swatch.
Oui, c'est vrai.
Mais si on pouvait créer aussi sa montre de poche, ça serait...
Ça va venir, pourquoi pas.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il y en a une, par exemple, une couleur, qui parmi les 1000 qui sont là, qui aura plus de succès que les autres, et qui, du coup, sera beaucoup plus difficile à trouver en boutique, et qui, du coup, pourra surcoter par rapport aux autres? Tu vois le phénomène auquel on peut assister?
C'est dur
comme c'était le cas avec la bleue de la...
Je crois que c'est déjà le cas. J'ai essayé de faire ma petite expérience dans la rue et puis en regardant sur les sites de revente. Et effectivement, la montre savonnette bleue est a priori assez introuvable. J'ai discuté dans les
sites de...
C'est celle qui risque de coter le plus.
Oui. Ah.
Et c'est celle probablement qui est le plus recherchée par les vrais collectionneurs.
Évidemment.
Oui.
Des vrais collectionneurs de ce
genre. Attends, mais il en a une cadran bleu, évidemment.
Mais moi, quelqu'un m'a demandé s'il pouvait les avoir toutes avec la mallette.
Ah oui, ça, comme toujours.
Et la mallette, personne l'aura, parce que la mallette, elle est qu'en boutique.
Elle n'est pas à vendre, comme pour la Moonswatch.
Alors maintenant, on va finir, parce que... Ils nous aiment bien, mais ils ont peut-être... ça fait 2 heures qu'ils boivent des cafés ou des mojitos, j'en sais rien.
Des matcha.
Des quoi? Des boubous?
Matcha.
Des matcha.
Laquelle est votre préférée?
Alors moi, justement, c'est...
Puisque là, on a les 8.
C'est la Landbar, celle dont je parlais, la savonnette avec la petite seconde à la petite seconde et la bleue. Mais c'est celle-ci. Et c'était celle-ci avant que je sache qu'elle était en rupture de stock.
Paul.
Donc, pas de chance.
Moi, j'ai envie de dire, c'est la savonnette multicolore pink, yellow, turquoise.
La OTG rose.
Ouais.
Je te rejoins aussi.
Parce que...
Tu connais pas les noms, Paul?
Les noms des montres?
Oui.
Non, je les ai pas appris encore.
Ah bah,
je suis désolé.
Extrêmement déçu. Toi, c'est laquelle tu
utilises? C'est la OTG rose, évidemment.
On te l'a bien préparé, celle-là. Est-ce qu'on te l'a bien préparé, celle-là, depuis le début? Vous voyez ça?
Bien joué.
C'est parce que t'es arrivé le dernier.
C'est parce que t'es arrivé le dernier avec du retard. On lui avait préparé ça. On a tous appris les noms par cœur.
Non, mais n'écoutez pas. En fait, je l'ai dit, mais ça a été coupé au montage. et j'étais ensuite simplement dans le détail de ce modèle.
Mais tu l'as sorti avec beaucoup d'aplomb. Tu l'as sorti avec beaucoup d'aplomb. On aurait dit le nom de la montre. Donc,
c'est vrai.
Parce que quand Karine commence à balancer le nom, je dis, mais c'est pas toi de le dire au premier. Alors tout de suite, l'interrompt. T'as vu, on t'avait préparé ce petit gag.
Pas grave, mais bon.
J'ai failli te donner un coup de pied.
Allez, maintenant, un petit pari entre nous. Hein, enfin, moi, celle que je préfère, évidemment, c'est aussi la Landbar. C'est la bleue. Vraiment, je la trouve bien.
Donc, très jolie. Des savonnettes, là. Il n'y a pas de...
La huit blanche.
Est-ce que nous, on n'aime pas la savonnette parce qu'on est dans l'horlogerie, parce qu'on aime les montres? Et moi, je trouve absolument génial ces petits guichets. Parce que certains diraient des hublots, s'ils ne savaient pas, tu vois. Mais ces petits guichets pour la réserve de marge.
Oui.
Vraie avancée.
Oui, peut-être.
Oui.
Bah oui, c'est... Mais je trouve ça génial, tout simplement génial. Les paris, la prochaine collab. Alors, paris avec... D'abord, avec quelle marque pensez-vous que Swatch va faire la collab? Ou deux, avec quelle marque, ou quelle maison, ou quelle manufacture vous trouveriez que ce serait vraiment rigolo, sympa et original? Et je n'attends de vous, pour la collab, la prochaine collab, la marque, mais vous, le modèle que vous aimeriez... Non. Au même titre que la Royal Oak arrivait avec...
Moi, ça serait la Monaco Tag Heuer. Ça serait génial.
Tu dis pas ça parce qu'il l'est à la couverture de...
Pas du tout. Mais vraiment. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça.
Petit coucou aux amis de Tag Heuer.
Avec les compteurs en couleur et tout. Enfin, ça serait chouette. Un petit bracelet coloré perforé. Ah ouais. Tiens, j'imagine.
Alors, on rouvre pas le débat.
Non.
Mais un groupe avec un groupe, c'est moins simple qu'une maison indépendante qui vient avec un groupe. Tu vois le groupe LVMH faire quelque chose avec le Swatch Group?
Alors,
je dis ce que j'aimerais, hein, pas dit.
Alors, ouais, je le verrai. Je réponds pas à la première partie de ta question sur les paris, quelle sera la prochaine. Parce
non, mais
que,
pas, c'est pas le pari. Parce que on ne parie pas d'argent, tu peux dire quelque chose.
Alors, ouais, en fait, je trouve que là, ça a ouvert une porte. Le fait que ce soit une montre de poche, ça a ouvert une porte à d'autres pistes. Et moi, j'aimerais bien une collab entre Swatch et la Maison L'Épée, qui désormais fait partie du groupe LVMH, pour aller encore plus loin dans le délire. C'est-à-dire ne pas aller sur une montre de poche, mais aller sur
pendule,
une pendulette.
De table. Une pendulette. Ouais. Ok, l'épée. Non, mais c'est la marque avec laquelle, toi, tu trouves ça malin.
Je trouve que là, si ça sortait, je serais encore plus surpris qu'avec
une marque. T'imagines une création l'épée en biocéramique?
Non, mais ouais, c'est génial.
Ce serait dingo.
Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'on sorte peut-être de l'horlogerie suisse. Parce que je pense que cette collab a fait beaucoup de bien à toute l'horlogerie suisse. Et pourquoi pas ouvrir peut-être à l'horlogerie japonaise, par exemple, qui est aussi très légitime. Là, ça serait osé.
Alors, avec un Seiko, un grand Seiko, un Trader.
Oui. Ah oui, je vais loin. Hein. Après,
alors là, on n'est plus dans le commerce, on est dans la diplomatie. Hein.
Absolument. Puisque les Japonais
après la crise du quartz,
font la queue très gentiment.
Là, la Karine, elle se lâche.
Ah ben complètement. Sinon, avec une marque française, voilà.
Ouais, une Trilobe.
Je ne cite aucun nom. Beaucoup de maisons françaises que j'aime beaucoup.
Non, tu dis pas.
Non,
je dis pas pour ça.
Tu fais une collab avec Trilobe?
Oui.
Ah, super.
T'étais pas la montre de l'année? Mais toi, tu dormais ou quoi?
Mais si, mais j'ai essayé de faire des relances.
Ah, c'était une relance? Vas-y.
Là, c'est vrai que cette collaboration, elle permet de tout envisager finalement, parce que tu l'as dit, on s'attendait pas à ce que ça soit hors du groupe Swatch, on s'attendait pas à ce que ça soit une montre de poche. Moi, je vais me faire peut-être tuer par la communauté, mais ce que je trouverais marrant, c'est une reverse Swatch. Peut-être.
Ah. Oh là là, une reverse watch.
Il a déjà le nom.
J'ai le nom et je prendrai des royalties sur l'opération.
Dépose le direct.
Oui. Ou une swatch basculante. Ça serait une autre maison, quartier.
Ouais.
Ah, ça serait rigolo.
Moi, je vais vous dire une.
Ah oui, et toi?
Où ça m'étonnerait. Oui, j'ai le droit de parler? Merci, Chloé.
Merci,
Chloé.
Avec plaisir. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu verrais?
Dis-moi, vas-y, Franck, toi, dis aussi, t'as le droit. Moi, une qui m'étonnerait énormément, mais vraiment énormément, c'est Patek. Parce que je ne les vois pas dans cet esprit-là. Je ne les vois pas avec cette liberté. Tu vois, une Cubitus en biocéramique, c'est un truc, ou une Nautilus en biocéramique, je ne le vois pas. Et en revanche, une qui ne m'étonnerait pas, parce que c'est dans l'esprit de son créateur de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, c'est une Richard Mille.
Ah ouais, punaise.
Parce qu'avec toutes les montres colorées
qu'il
a sorties avec ses céramiques colorées, avec ses associations de couleurs, etc., je pense que ce serait un coup assez formidable.
Ce serait énorme.
Ah oui, ça serait, serait presque logique, j'ai envie de dire.
C'est marrant, hein.
C'est trop logique, presque.
De monter en gamme. Mmh. Après, une collab ne peut s'envisager qu'avec, et d'ailleurs, tout ce que vous avez dit le prouve, qu'avec des icônes. Oui. Voilà, des produits qui dépassent presque la marque.
Speedmaster, 50 Phantom, Royal Oak. Bah là, voilà, Monaco,
Reverso.
On peut continuer comme ça très bien loin. Sûr.
Et des icônes horlogères, il n'y en a pas non plus 50.
Il
n'y en a pas 1000, c'est vrai. Donc ça serait assez amusant. Fini? Vous n'avez plus rien à dire?
Non.
Un petit peu de publicité personnelle?
Si.
Oui.
Alors, attends.
T'attends la perche?
Non, mais...
J'aurais pu te jeter des œufs, et maintenant, je t'attends une perche.
Mais à quand une collab Swatch Franck Sensé?
Bon Dieu, mais c'est bien sûr! Évidemment! Mais...
Non.
Alors ça, c'est impossible. Mais alors, impossible. Parce que j'ai demandé à essayer de faire, pas une collab, mais moi, à imaginer une série spéciale, machin, avec leur système, tu sais, avec les montres qui font à la minute, avec des dessins, et, tu vois. Et je voulais faire mon dessin, etc.
Oui. Non, il faut prendre le leur.
Niette.
Bon, tant pis.
Il a tenté.
Bon, on se contentera de la Richard Mille.
La Richard Mille Franck Sensé non plus. C'est pas à l'ordre du jour.
Ou de la Reverse Watch.
À l'ordre du jour, Laoris, dont le drop va être lancé en juin-juillet, pour une livraison en septembre. La Trilobe, pour Noël. Et normalement, une Acrone aussi, avec un Mecha Quartz, titane, aux alentours des 400 euros. Pour Noël. Okay. Parce que qu'il n'y ait pas une trilobe, tu vois, qui vaut plus de 20 000 euros, que 10 exemplaires. Et là, on fera un drop aussi avec Acrone pour que tout le monde puisse en avoir. Dans les collabs Franck Sensé, il puisse y avoir des montres qui sont très accessibles et puis des montres chères pour ce qu'il veut. Et puis d'autres marques dans les tuyaux, on n'en dira pas plus. En revanche, on va parler de notre ami Fabrice Pouget pour conclure cette. Ce talk, qui ne sera pas le dernier, je compte sur vous pour mettre des commentaires quand même pour nous dire si ce format vous plaît et si même vous avez envie qu'on décrypte un sujet, ok, que l'on puisse prendre rendez-vous. Il y a des émissions de plateau qui sont prévues aussi peut-être à la rentrée. Alors, Paul.
La parole est
à Paul Michel.
Ce qu'on aime aussi dans l'horlogerie, c'est les montres qui font sourire.
Et casser les codes.
Qui casse les codes.
Comme celle que tu portes.
Oui, une montre avec Mickey. J'adore Mickey.
Voilà. Bah oui.
Et donc, il y a quelques années, en collaboration avec Fabrice de Matt Watches, on avait lancé, pour se marrer, en fait, la Egg Master, qui était le premier chronographe dédié à la cuisson de l'œuf, en partenariat avec La Somme. Qui est l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise, qui organise tous les ans le championnat du monde.
Les mecs, ils sont fous. L'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise.
Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, et donc ça a été un succès, on avait détourné un chrono de régate que Fabrice avait réalisé pour la Team France à la Coupe de l'América. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un chrono de régate ? Ben en fait, c'est un compte à rebours. Et donc, un compte à rebours, c'est un minuteur de cuisine. C'est exactement la même chose. On avait monté un comité scientifique avec l'aide de l'Académie de la gastronomie internationale. Le temps de cuisson parfait pour l'œuf dur dans la composition de l'œuf mayonnaise. Donc, on était arrivé à 8 minutes 40, notamment grâce à l'aide de Sébastien Mayol, le vice-président de la Somme, que je salue ici, parce que c'est un grand amateur de montres, et il te regarde très souvent.
Et puis la nouvelle. Et au restaurant, on demande toujours un œuf Mayol.
Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que est lancé très bientôt, c'est quasi demain, la Egg Master 2.
Cette semaine.
Cette semaine.
Là, vous avez un scoop. Pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, vous avez un scoop en live.
Avec une multiplication de complications. Donc, la précédente était uniquement dédiée à la cuisson de l'œuf dur. Et celle-là, désormais, va être dédiée à la cuisson de 4 œufs différents. Donc, poché, dur, mollet,
c'est dur.
Donc, les j'ai files dit d'attente
dit dur deux fois.
Tout de suite.
Alors, il y a... et coque, j'ai oublié coque.
Ah oui, t'as oublié, t'as dit dur,
coque,
poché, mollet et dur.
Et en partenariat cette fois-ci avec Fabien Perron, qui est champion du monde 2023 de l'œuf en meurette.
Excusez du peu.
À l'auberge de Lausanne. Donc en Suisse.
Très bien.
Et évolution technique aussi pour ce nouveau modèle qui va passer en automatique dans un boîtier de picobello de 39 mm, donc qui s'installe dans les codes du style un petit peu plus proche de ce qu'on aime aujourd'hui. Voilà.
Tu sais que j'ai une picobello en collab qui est en cours.
Il me semble que je le savais, oui.
Ouais, tu l'as vu. Voilà. Bon, et donc, moi j'adore la devise de Paul, qui est « Le temps passe, mais... »
Les œufs durs.
Ah, c'est quand même bien. C'était marqué sur la première Egg Master. Et nous, on et finira là... par une montre arrêtée, et ça marche pour celles qui sont devant vous. Une montre arrêtée, donne l'heure exacte.
Deux fois par jour.
Ainsi s'achève avec Karine Leuillet, France, Edson Panier, Percé, France, Paul Miquel, la fameuse polémique, Paul Miquel, et la Chloé Pâtre, Dreadler. Dreadler, deux doigts coupe fin, pour ceux qui ont la ref, ça date un peu.
Ça date un peu.
Et je vous dis, restez connectés. À tout à l'heure.